je suis vraiment très honorée, très contente que Laurent m'ait confié cette tâche de parler, disons, de l'ère Schatzmann à l'IAP. Je considère que c'est pas forcément moi qui était la plus apte à en parler, mais enfin, j'ai accepté avec joie de faire ça. Par ailleurs, bon, je suis très déçue par ailleurs d'entendre que c'est pas les 75 ans d'IAP, parce que je pensais que ça allait fêter mon propre anniversaire, puisque moi-même je viens d'avoir 75 ans. Donc, bon, tant pis. Alors, je vais donc vous parler de, je peux pas vous parler des premières années, j'étais un peu jeune, donc je vais vous parler de l'IAP à partir du moment où je suis arrivée à l'IAP comme étudiante à ce moment-là, en 1958, jusqu'au moment où je l'ai quitté avec tout le groupe Schatzmann en 1971. Donc, alors comment on fait? Voilà. Alors, je vous montre une photo, j'ai plus besoin maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus nécessaires puisqu'elles ont été dites en particulier par Jean-Claude Pecker. Alors voilà une photo qui est dans le couloir aussi, qui vous montre les premiers 25 ans de l'IAP avec les grands ancêtres de l'IAP. Bon, je les ai bien connus et quelques étrangers célèbres. Alors ici monsieur Barbier, Daniel Barbier, qui était un homme, comme vous voyez, assez impressionnant, plein d'un humour un peu ravageur. Il avait par exemple l'habitude de raconter qu'un jour il était venu à l'IAP un dimanche travailler. Le gardien lui avait demandé « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Il avait répondu « Je viens voir monsieur Barbier. »« Ah bon, très bien passé. » Donc, ici c'était Challonge, qui était un homme connu pour sa discrétion et sa modestie. Et puis, il y avait ici Mademoiselle Canavaggia, Charlotte Pecker, ici Kourganov. Enfin, on a entendu parler. Ici, monsieur et madame Andria, ils n'étaient pas à l'IAP, mais je les montre parce que pour moi, ça a été des gens qui m'ont beaucoup aidé. Madame Herman, et ici, les tout jeunes, Schatzmann et Pecker. Voilà. Ah, c'est pas madame Herman, celle-là. D'accord, désolé. Alors, il va y avoir sans doute beaucoup d'erreurs, je m'en excuse à l'avance, parce que je n'ai pas une mémoire qui soit qui marche totalement bien. Hein. Donc, je vais sans doute avoir des erreurs à corriger. Alors, ensuite. Alors, vous voyez ici l'IAP, comme je l'ai connu, donc dans les années 60, et vous pouvez remarquer que, naturellement, il manque le troisième étage qui a été construit beaucoup plus tard. Alors, ici, par contre, il y a un petit bout de troisième étage sur lequel se trouvait une coupole qui existe, on la voit mal, et cette coupole est la seule, à ma connaissance, qui est contenue de montures équatoriales destinées aux étudiants amateurs d'astronomie qui en avaient assez d'observer les étoiles ici, comme je vais vous le montrer tout de suite, dans les sous-sols de l'IAP. Bien, alors je vais vous parler de l'IAP. Pour vous en parler, je vais vous le faire connaître de la cave au grenier, parce que je pense que c'est la meilleure façon de vous présenter les choses qui s'y faisaient. Et je vais insister sur un aspect qui n'est pas purement scientifique, qui est de montrer en particulier aux jeunes comment on faisait la recherche à cette époque-là, parce que je suppose qu'ils ne l'imaginent peut-être même pas. Et je pense que, par contre, pour les anciens, ça va peut-être rappeler quelques bons souvenirs. Donc, je vais parcourir l'IAP depuis le bas, en commençant par le sous-sol. Alors, au sous-sol, il y avait des ateliers, parce que, comme vous l'avez déjà dit, en particulier dans le film, l'IAP était dédié énormément à l'instrumentation. On y fabriquait les spectros de Challonge, les microphotomètres. Il y avait un atelier de menuiserie qui faisait la menuiserie pour les instruments, mais qui faisait aussi de la menuiserie quand on en avait besoin pour des meubles. Je me souviens que, à ma connaissance, le menuisier s'appelait Monsieur Fagot, du moins celui que j'ai connu pendant toute ma présence à l'IAP. Il y avait une petite cantine où on mangeait, et il y avait, ce que je vais décrire tout de suite, une salle de TP, une salle de machine analogique et une salle de reproduction. Alors, qu'est-ce que c'était cette salle de TP? Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de meilleure photographie pour vous la montrer. C'était la salle dans laquelle se passaient les travaux pratiques du certificat dont je vais parler tout à l'heure, Astro 1. Et cette salle avait été imaginée, les TP avaient été pensés par Evry Schatzmann, qui voulait qu'il y ait des travaux pratiques, mais qui ne pensait pas qu'on pouvait les faire en observant réellement le ciel. Donc il avait demandé en 1959 à Jean-Paul Zanne d'imaginer et de fabriquer cette épée, ce que Jean-Paul avait fait, et en 1960, il est parti au service militaire, qui était assez long d'ailleurs à ce moment-là, et petit clin d'œil du destin, c'est moi-même et Bruno Morando qui ont été recrutés en octobre 1960 pour nous occuper de cette épée. Alors cette épée, il contenait une dizaine de manips, dont en particulier une se passait au fond de ce couloir d'une vingtaine de mètres. Elle contenait un amas artificiel d'étoiles qu'on avait fabriqué en perçant des trous de taille différente dans une plaque de contreplaqué et on avait mis devant des filtres colorés, et ça représentait un amas artificiel dont les étudiants prenaient des photos, dépouillaient ça au microphotomètre et devaient trouver le diagramme Hertzsprung-Russell de l'amas et même éventuellement son âge. Bon. Alors, l'âge changeait, beaucoup d'astronomes de la génération des plus de 60 ans, je peux dire qu'ils ont transpiré sur cette épée, et ils m'en parlent encore quand je les rencontre. Voilà, alors ensuite, il y avait une autre particularité de l'Institut au sous-sol, c'était la machine analogique que Evry Schatzman avait demandé à Michel Hénon en 1954 de fabriquer pour pouvoir résoudre les équations de la structure interne. Alors voilà une partie de cette machine qui a été fabriquée au deuxième étage mais entreposée au sous-sol, et ce qui s'est passé, c'est que Michel Hénon a mis 5 ans à la construire parce que c'était tout de même très compliqué. Il a eu l'aide d'un technicien au bout de quelques années, et quand la machine était utilisable, eh bien sont arrivés les ordinateurs digitaux qui étaient naturellement beaucoup plus puissants et faciles à utiliser, et la machine a été mise au rencard au sous-sol. Bien, alors Michel Hénon lui-même n'en a pas fait une maladie, il a changé de sujet, il s'est mis sur un sujet purement théorique, la dynamique des amas globulaires, et il a passé en 1961, 2 ans après, une thèse qui, au dire de Danjon, qui était le président du jury, était la plus belle qu'il ait jamais vue de toute sa vie. Voilà. Bon, alors ensuite, juste un petit mot sur la façon dont à l'époque on reproduisait par exemple les polycopiers. Eh bien c'était une machine à stencil qu'on tournait à la main et qui était capable de faire à peu près 200 ou 300 exemplaires du même texte. Naturellement, ça n'avait pas une qualité superbe. Voilà. Et c'est exactement la même machine qu'il y avait à cette époque-là au sous-sol. Alors maintenant, passons au rez-de-chaussée. Alors, le rez-de-chaussée contenait, comme c'est d'usage, l'administration, et puis l'équipe Weill-Wigroux, dont on a entendu parler tout à l'heure par Jean-Claude Péquer, donc j'en reparle pas, des ateliers, et puis la salle des atlas. Et la salle des atlas nous servait beaucoup, parce que à l'époque, on n'avait pas de moyens digitalisés de préparer des observations. Donc, on les préparait avec des catalogues d'étoiles qui nous donnaient les coordonnées des étoiles brillantes, naturellement, avec des cartes du ciel qu'on mesurait à la règle et au compas, et par la suite, à la fin des années 60, on a reçu les premières cartes du Sky Atlas de Palomar qui nous ont permis enfin d'avoir en particulier les objets faibles et qu'on décalquait sur des papiers calques et qu'on emmenait à l'observatoire au télescope pour observer avec. Donc, un peu différent de ce qui se passe actuellement. Alors, au premier étage, il y avait comme maintenant l'hôtel avec ses chambres, et puis il y avait des bureaux. L'équipe Barbier, Challonge, Divan, dont je vais parler dans un moment, avec par exemple les Querel et les Van Veer qui travaillaient, plus à peu près une douzaine de personnes. Je pense que cette équipe était constituée par une quinzaine de personnes. Claude, tu me corriges? Oui, dis une bêtise. Ils étaient au sous-sol? Bon. D'accord. Arrête-moi chaque fois que je dis des bêtises, hein. Bien entendu. Bon. Alors, une salle de réunion qui était à côté de la bibliothèque, qui occupait la même place que maintenant, et puis un bureau de photographie, un bureau de dessin, et puis pas les microphotomètres, donc voilà. Bon, alors, d'abord je vais dire 2 mots sur l'équipe Barbier-Challonge-Divan. Ici, vous voyez Challonge en train de grimper à 3500 mètres à l'observatoire du Jungfraujoch. Alors, j'espère qu'il n'y allait pas toujours à pied, comme ça, pour faire ses observations. Et il fallait les faire en haut parce que il faisait à ce moment-là ce qu'on a appelé la classification BCD, Barbier-Challonge-Vivant, qui classait les étoiles en fonction de trois paramètres qu'ils mesuraient sur la discontinuité, autour de la discontinuité de Balmer. Et ils avaient pu montrer, d'après cette maquette à trois dimensions, que les étoiles, au moins celles qui avaient une discontinuité de Balmer importante, c'est-à-dire depuis les étoiles B jusqu'aux étoiles F, se classaient très bien en fonction de ces trois paramètres. Alors, j'ai entendu souvent dire que cette classification n'a pas servi, bien qu'elle ait été très, elle a mis beaucoup de temps à se faire, a nécessité beaucoup de travail, parce que elle était très compliquée effectivement de mise en œuvre et qu'elle a été remplacée donc quand il y a eu de la photométrie, et en particulier photoélectrique aussi, par des classifications plus faciles à utiliser. Mais tout de même, c'est une classification qui a été très importante parce que elle a conceptualisé le fait que on avait besoin de deux paramètres au moins pour classer les étoiles, et à partir de là se sont développées des classifications effectivement où on avait la classe de luminosité et le type spectral en même temps. Bien, alors cependant, l'UAP a tout de même gardé son grand rôle de pionnier dans le domaine de l'étude des spectres stellaires. Alors, il y a eu le développement avec Charlotte et Jean-Claude Péquer de l'astrophysique de la formation des raies spectrales en non-équilibre thermodynamique local, ce qui permettait d'expliquer les intensités des raies spectrales qui se forment dans les couches superficielles des étoiles, du Soleil, des étoiles, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, naturellement. Et puis, il y a eu l'équipe qui, sous la houlette de Roger Querelle, qui a quitté l'Institut d'astrophysique, il avait été l'élève de Jean-Claude Péquer, qui a quitté l'Institut d'astrophysique en 1962 pour diriger à Meudon le service d'astrophysique, et qui a en particulier fait faire la thèse des SPIT sur l'étude du lithium, et puis qui continue à avoir un très grand impact international en étudiant les étoiles de très faible métallicité, étoiles de population 3, et ils ont trouvé récemment l'étoile la plus vieille, et puis aussi ils ont pu déterminer l'abondance d'uranium qui permet de dater naturellement l'univers. Voilà. Donc l'IAP, rôle pionnier dans ce domaine. Ensuite, je veux juste souligner pour les jeunes, comme je l'ai dit, l'importance du bureau de dessin et du bureau de l'atelier de photographie. Alors le bureau de dessin, c'est bien évident, on n'avait pas nos dessins qui sortaient des ordinateurs comme on les a maintenant, donc il fallait qu'il y ait des professionnels pour nous tracer les courbes, pour publier les articles avec des courbes qui soient quand même regardables. Et puis, la photographie était très importante aussi, non pas la photographie astronomique, mais tout simplement la photographie qui nous permettait, en plus du tableau noir, d'avoir, par exemple, au moment des thèses, des conférences, des diapositives à projeter, parce qu'il n'y avait pas de projecteur de transparent à cette époque-là, et puis qui nous permettait aussi quelque chose de très important. Comme on n'avait pas de reproduction, de reproducteur, on photocopiait pas, eh bien, quand on voulait la reproduction d'un article dont on avait vraiment besoin tout le temps, on demandait à la bibliothèque centrale du CNRS de trouver cet article, de nous le photographier, et elle nous envoyait ses photos au bout d'un mois de délai à peu près. Donc, voilà, vous imaginez que on avait en conséquence beaucoup d'impatience à recevoir nos articles pour pouvoir travailler. Alors, il y avait aussi un rôle important et pionnier de la bibliothèque de l'IAP, puisque avec mesdames Brunello et Lagorce a été constitué le premier fichier dans les années 60 qui donnait des objets pour lesquels il y avait plusieurs noms, puisque à l'époque on avait commencé à observer dans le domaine radio et dans le domaine X, et naturellement on ne donnait pas les mêmes noms aux mêmes objets, donc il fallait faire de l'ordre là-dedans. Elles l'ont fait. Et par la suite, le travail a été continué par Suzanne Lallouet, et puis c'est devenu la base pratiquement du centre de données de Strasbourg dans les années 70, dans les années 80, quand le centre a commencé à se constituer. Alors, encore un dernier mot sur les observations. Comment on dépouillait les observations? Bon, c'était des observations photographiques. Vous avez pu le voir tout à l'heure avec le spectre pris par Daniel Challonge. Ces observations, on les dépouillait avec un microphotomètre. On enregistrait sur du papier millimétré les intensités des raies et d'un spectre étalon. Et puis ensuite, on mesurait à la règle, on mesurait les longueurs d'onde et puis on mesurait au planimètre les largeurs équivalentes des raies qui se trouvaient au-dessus du continu. Voilà comment on a travaillé jusqu'à la fin des années 60, époque à laquelle on a commencé à digitaliser ça et à faire des petits programmes qui nous permettaient de faire ça à la machine. Voilà, donc pour résumer, je dirais que au début des années 60, l'IAP contenait d'abord plus d'ingénieurs et de techniciens que de chercheurs stricto sensu, et ceci était dû à deux choses. D'une part, il était orienté très fortement vers l'instrumentation, et puis d'autre part, qu'on avait besoin de beaucoup d'aide dans notre recherche, photographie, etc., et puis frappe à la machine des articles qui étaient frappés en plusieurs exemplaires sur du papier carbone. Les chercheurs ne pouvaient pas faire ça comme on le fait maintenant sur les ordinateurs, donc les secrétaires avaient essentiellement comme tâche de frapper les articles, ce qui n'était pas une tâche ni amusante ni facile. Et puis, bon, pour résumer, je dirais qu'on travaillait à peu près comme on le faisait dans toute la première partie du siècle, du 20e siècle. Bon, alors je passe maintenant au deuxième étage et j'en arrive à justement l'équipe Schatzmann. Alors d'abord, mentionner qu'il y avait une petite cantine qui se trouvait à la place où maintenant il y a une partie de la salle de convivialité au deuxième étage, du côté de la terrasse. Il y avait un bureau de calcul dont je vais parler tout de suite, et puis l'équipe Schatzmann, et puis une petite équipe, celle de Pétureau, qui travaillait sur la détermination de la constante solaire. Voilà. Alors, voilà la cantine qui servait à l'époque, vous voyez qu'elle n'était pas très grande, voilà le fameux Durgetto dont a parlé tout à l'heure Jean-Claude Péquer, et puis comment nous calculions. Alors, il l'a dit aussi, Jean-Claude Péquer, on n'avait pas d'ordinateur, et dans les premiers temps, on calculait tout simplement, dans les années 60, hein, on calculait avec des tables de logarithmes, des tables de fonctions, et puis des règles à calcul dont on savait très bien se servir. Je pense que les jeunes n'en ont peut-être jamais vu. Et puis des machines électriques, Frieden et Marchand. Et c'est là que intervient ce fameux bureau de calcul dont parle Jean-Claude Péquer aussi, qui se trouve à la place où se trouve justement la grande salle de convivialité maintenant. Et qui contenait à peu près une douzaine de calculatrices qui étaient des dames, pour une raison que j'ignore, c'était toujours des dames et pas des messieurs, et qui calculaient. Alors ici, Madame Saint-Gelin, Madame Boissineau, je crois que je les reconnais, c'est ça? Oui. Hein. Et puis une machine dont elle se servait quand les 12 machines marchaient ensemble. Vous pouvez vous imaginer que ça faisait du bruit. Alors elles avaient une chef de calcul, Madame Hernandez, qui leur donnait des grandes feuilles sur lesquelles il y avait des colonnes, multiplier la colonne 1 par la colonne 2, diviser, etc. Voilà. C'est comme ça que se faisait. Elle est exposée? Excuse-moi Jean-Pierre, j'ai pas encore eu le temps de visiter l'exposition. Alors en 1963 est arrivé le premier, la première machine à calculer, le premier computer, une IBM 650 qui est arrivée à Meudon où elle occupait une salle dans les communs. Et elle était déjà fortement dépassée à l'époque, mais n'empêche qu'elle nous a fait très plaisir. Et cette IBM 650, elle avait 2000 mots, c'est-à-dire 2K de mémoire de stockage et 60 mots de RAM. Donc, et une intégration typiquement prenait 30 secondes. On attendait qu'une carte perforée tombe et vienne nous dire quel était le résultat du pas d'intégration. Par la suite, il y a quelque chose qui a manqué ici. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi ça a échappé. On est allé à Meudon. Calculé à la fin des années 60, il y a eu une IBM 7040 qui s'est installée à Meudon. Donc on emmenait nos bacs de cartes ici et on récupérait ce que j'avais mis ici, je sais pas pourquoi ça n'est pas, des listings immenses qui étaient recyclés dans les écoles maternelles, où le côté blanc du listing pouvait servir à faire beaucoup de petits dessins pour les petits enfants. Voilà. Donc c'était comme ça qu'on calculait à cette époque-là. Et j'en arrive maintenant à l'équipe Schatzmann, qui en 1970 avait environ 40 chercheurs. Il y avait deux secrétaires. On avait à notre disposition environ une douzaine de bureaux. C'est vous dire qu'on était tout de même assez serré. Hein. Moi, j'ai été assez longtemps à quatre dans, et même à cinq dans un bureau. Et puis, il y avait une proportion égale de femmes et d'hommes, ce qui avait le don d'étonner beaucoup tout le monde, aussi bien dans les instituts français que dans les instituts étrangers. Voilà. Alors, que faisions-nous dans cette équipe Schatzmann? Alors d'abord, il y avait de l'instrumentation, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la machine analogique de Michel Hénon, aidée par Michel Dreux, et quand cette machine analogique a cessé d'être construite, disons, Evry Schatzmann a fait construire une machine pour mesurer les durées de vie des ions, de certains niveaux d'énergie, de certains ions d'utilité astrophysique, parce que à l'époque c'était une des choses les plus importantes pour pouvoir interpréter les spectres stellaires. Alors cette machine, qu'on a appelée pendant un certain temps, je l'avoue, le Nevertron, a fini par fonctionner, a pardonné quelques durées de vie. Mais bon, entre-temps, il y avait des gros laboratoires qui s'étaient mis à fabriquer des machines qui en donnaient. Et donc, elle n'a pas été d'une utilité énorme. Les travaux, les observations, bon, il y en avait peu d'observations. Moi-même, j'ai fait des observations. Il y avait Claude Chevalier qui observait les deltas scutiques, Claude Chadot. Il y avait quelques observations dans le labo, mais il faut dire que Evry n'était pas très fortement porté sur les observations, et on se racontait l'histoire. Il avait envoyé un jour une de ses étudiantes observer une étoile à Toulouse qui passait au méridien à cette époque-là à midi. Bien, alors, du point de vue observationnel, c'était pas un grand génie, mais c'était un génie du point de vue théorique, et ça a été un maître exceptionnel pour son équipe. Alors, quand on arrivait dans cette équipe, Evry Schatzmann voulait développer toute l'astrophysique théorique. Donc, il nous envoyait, comme l'a dit, ça a été dit à un moment, ou peut-être par moi-même, il nous envoyait chacun dans un domaine différent. Donc, on ne pouvait pas vraiment communiquer les uns avec les autres. On communiquait seulement avec Evry Schatzmann. Donc, voilà comment ça se passait, suivant un petit schéma que j'avais fait lors de l'inauguration du bâtiment Schatzmann à Meudon. Eh bien, on était sur des petites îles désertes. Evry Schatzmann était sur une grosse île déserte et il prenait un bateau, il venait nous voir successivement pour nous donner des conseils. Mais quand même, ça changeait rapidement, comme je vais vous le dire dans un petit moment. Alors, quels étaient les travaux théoriques qui étaient développés? Eh bien, ils étaient très nombreux, j'en ai oublié certainement plusieurs. J'ai surtout oublié beaucoup de gens, parce que, bon, je me suis rappelé seulement de ceux que je connaissais bien. Quand j'ai mis un ES, ça veut dire que Evry Schatzmann était lui-même impliqué dans ce genre de recherche. Alors, vous voyez des recherches très théoriques, purement théoriques, la magnéto-hydrodynamique, étude du rayonnement des instabilités, avec bon ces gens-là, l'astrophysique nucléaire, donc avec O12, Vauclair, la cinétique des gaz, les processus d'action. Il avait envoyé en particulier André Mangenet faire sa thèse avec le futur prix Nobel Prigogine, et il est revenu donc avec une thèse sur la cinétique des gaz, processus d'accélération, ondes de choc, turbulence. Alors là, j'ai mis en rouge la structure interne des étoiles, parce qu'on peut dire que c'est là-dessus que Evry Schatzmann a laissé son plus grand héritage et qu'il continue encore maintenant, beaucoup. L'étude de la granulation de la convection solaire avec Pierre Souffrin, nébuleuses gazeuses, novae, noyaux actifs de galaxies, cosmologie, dynamique stellaire. C'était plutôt Hénon là qui dirigeait ses thèses, les naines blanches, les atmosphères en mouvement, etc., etc. Voilà, vous voyez l'énorme panoplie de sujets qui étaient étudiés à cette époque-là, et juste un mot que je veux dire encore, c'est que de par la nature de notre recherche, on avait des thèses qui duraient assez longtemps, 7 à 8 ans typiquement, et qui se passaient pas toujours sur le sujet de recherche sur lequel on avait commencé, comme par exemple Michel Hénon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour nous aider à apprendre dans nos discussions, il y avait de nombreux visiteurs étrangers de longue durée qui apprennent le français. Alors, ces visiteurs ont tous appris le français, mais certains d'entre eux ne le parlaient pas très bien, hein, que c'était un peu incompréhensible, Thomas, je pense à Thomas, mais il y en avait d'autres qui le savaient d'emblée en arrivant, comme Hubert Reeves, qui est arrivé en 1964, Lyman Spitzer, qui est venu en 67 et qui a rédigé son premier livre, sa première version du livre Physique des milieux interstellaires, Edward Spiegel, qui a initié des gens à la convection, Franco Pacini, que je vais vous montrer tout de suite parce qu'il y a une photo de lui, qui était un jeune chercheur qui travaillait, qui a passé 2 ans, j'ai même partagé son bureau, et qui travaillait sur des étoiles qui nous paraissaient complètement utopiques, qui s'appelaient les étoiles à neutrons, il appelait ça comme ça. Bon, et puis quelques années plus tard, ces étoiles à neutrons sont devenues assez célèbres sous le nom de pulsar, et puis il y a eu d'autres choses qui ont été développées après. Bon, Dick Thomas. Et alors, une chose caractéristique aussi dans ce... Donc, on discutait avec eux. Et puis, Avery Schatzman estimait que l'immobilisme, ça engendrait l'immobilité de l'esprit aussi. Donc, il nous faisait, à peu près tous les 2 ou 3 ans, changer de bureau. On faisait un petit jeu de chaise musicale qui nous a appris à nous connaître très bien, à devenir amis. Alors, je vais juste raconter une petite histoire. C'est que il nous a mis un jour, Jean Houdouze et moi-même, dans son antichambre où on entendait tous les coups de téléphone qu'il donnait. On n'a jamais très bien compris. On est resté quelques mois là-dedans, il me semble, hein, Jean. On n'a jamais très bien compris pourquoi il nous avait mis là, si c'était pour nous surveiller ou pour économiser de la place. Bon, je ne sais pas. Voilà. Donc, tout ça faisait que on s'amusait beaucoup. C'était l'époque des Trente Glorieuses, on était jeunes et heureux, et on faisait beaucoup de fêtes. Et, par exemple, voilà une fête qui se passait dans cette petite cantine que je vous ai montrée tout à l'heure, en face de la salle de convivialité. Ici, Franco Pacini, donc, qui a passé 2 ans avec nous. Ici, Moïse Razivala, un Indien qui avait été recruté au CNRS, qui a démissionné du CNRS et qui est reparti en Inde pour enseigner dans une école primaire. Et puis, vous voyez des gens que vous reconnaissez, peut-être Avery Schatzman, Jean-Paul Zahn, Michel Dreux, Pierre et Nicole Main, qui sont pas là aujourd'hui. Je crois que c'est moi-même qui suis ici. Et puis, Nicole Bell, qui est disparue assez tôt. D'autres gens, Pierre Souffrin ici, ça c'est moi. Et puis, voilà. Donc, ici, Liliane Mangenet et Annie Baglin, qui fabriquaient nos crêpes, comme vous pouvez voir. Ici, on buvait du cidre. Enfin, voilà, on n'engendrait pas la tristesse. Alors, une autre fête qui est restée dans les annales, je pense, c'est ce qu'on a appelé la fête des quatre. C'était au moment de 4 thèses qui étaient presque simultanées. Les thèses de Giusa Querel, Jean-Paul Zahn, Pierre Souffrin et Pierre Main, où on a décidé de faire une grande fête. Et cette fête, on a donc fait un bal avec Kourganov, qui jouait de l'accordéon ici. Et puis Annie, je ne sais pas si elle est là, où elle est. Annie, oui. T'es là, bon, qui dansait Nini Potien, voilà. Et puis, un grand feu d'artifice qui avait été fabriqué par Jean-Paul Zahn, qui était un très gros amateur de pétards, un peu trop gros amateur pour beaucoup d'entre nous, parce qu'il en faisait péter beaucoup. Par exemple, lors des cours sur le supernové de Évry, il faisait péter toujours un pétard. Bon, et puis là, son feu d'artifice, il a fait beaucoup de fumée, et bien que tout le monde, tous les pompiers et les casernes étaient prévenus, ben à minuit, on a vu arriver trois camions de pompiers qui ont partagé notre fête naturellement. Bien, alors maintenant, je passe à la dernière partie, très bien. qui est l'enseignement, les enseignements créés par Ivry Schlassmann, parce qu'évidemment, c'est un pan très grand de son activité. Il avait été nommé, il avait eu une chaire en 1957, il avait créé le certificat d'Astro 1, certificat de licence, le certificat d'Astro 2, je ne garantis pas toutes les dates, qui était un diplôme d'études supérieures, le troisième cycle, c'est-à-dire Master 2 de physique des milieux ionisés, que j'ai eu le bonheur de faire en 1959, et le troisième cycle d'Astro 3, je crois que c'était en 65, mais je ne suis pas sûre, qui après s'est divisé en de nombreux troisièmes cycles. Alors, on étudiait beaucoup en se servant de ce livre, comme vous voyez, fort usé, le Pecker et Schatzmann, Astrophysique Générale, qu'ils avaient publié, le Pecker et lui, en 1958, et qui était un compendium de ce qu'on connaissait sur l'astrophysique à cette époque-là. Il y avait beaucoup de coquilles, on s'amusait à trouver. Et puis voilà Évry, enseignant, je pense ici, à ce tableau-là, justement, quelque chose qui doit être d'ailleurs les vents stellaires. Alors, Évry avait une façon d'enseigner qui était assez amusante, assez intéressante dans le pour les étudiants du troisième cycle, naturellement. Il arrivait avec un livre, l'APJ par exemple, il l'ouvrait, il disait « on va discuter de cet article aujourd'hui ». Il commençait à discuter de l'article, et puis à un moment donné, il n'arrivait pas forcément à retrouver les équations ou les résultats. Alors, tout l'amphi, tu me contrediras, Annie, si je dis des choses fausses, mais il semblait que ça se passait comme ça, tout l'amphi se mettait à chercher, et c'était très bien parce que ça donnait naturellement aux étudiants l'idée de ce que c'était vraiment la recherche. Hein. Bon, alors, avant de terminer, je vais dire que c'est la fin de mon exposé. Il n'était pas du tout conventionnel, je m'en excuse, j'espère qu'il vous a montré un peu cet esprit de 1968 qui était le nôtre avant 1968, et je caractériserai notre état d'esprit en particulier par imagination et liberté, qui nous permettait de développer une grande curiosité, un enthousiasme dans le travail et un épanouissement personnel. Et puis, deuxième chose, je pense qu'il faut insister sur l'essaimage, parce que à la suite, après ces années-là, la plupart d'entre nous sont partis dans d'autres endroits où ils ont découvert, ils ont eux-mêmes eu des groupes, et finalement, l'astrophysique multidirectionnelle, multidisciplinaire, c'est un petit peu développé à ce moment-là, et c'était bien le but de Évry quand il a commencé à développer son groupe. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même mentionner que tout ça évoque un peu de nostalgie pour moi, nostalgie de cette recherche qu'on faisait dans les années 50, 60, et qui était une recherche qui évoluait très lentement, mais on publiait peu d'articles, en général on les signait seuls, et chaque article avait une petite originalité, apportait un petit résultat nouveau. Tandis que j'ai maintenant l'impression, en lisant les articles qui sortent, que souvent je vois publier les mêmes idées dans plusieurs, sinon une dizaine d'articles, et je comprends bien ce qui se passe, c'est que effectivement il y a un besoin pour les jeunes chercheurs de publier beaucoup à cause de la compétition qui n'existait pas de notre temps. Nous on explorait un espace complètement vierge, on pouvait travailler sur ce qu'on voulait et on avait toujours quelque chose à trouver. Et maintenant, bon, il y a cette grande compétition, il y a aussi le fait que on est obligé de faire beaucoup de rapports pour obtenir des financements, pour après justifier, etc. Donc on n'a plus vraiment le temps, me semble-t-il, de réfléchir, comme le disait, je crois, Jean-Claude Pecker dans son exposé aussi. Et je dirais que, en quelque sorte, à l'époque, on avait l'énergie, les informations tombaient goutte à goutte, mais chaque goutte était très précieuse pour nous, tandis que maintenant, il y a une quantité phénoménale d'informations qui arrivent, soit des simulations numériques, soit des grands surveys, par exemple, et que les informations pleuvent, mais qu'en quelque sorte, on n'a pas le temps de se reposer et d'attendre de sécher entre des averses. Voilà, j'arrêterai là.
Voilà. 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 Ce que je voulais dire, c'est que la classification à trois dimensions de Challonge a permis de séparer des étoiles normales, des étoiles à composition chimique anormale, comme des étoiles surabondantes, comme les étoiles métalliques, ou des étoiles sous-abondantes en métaux, hein, je veux dire, comme les sous-naines. C'était la première séparation vraiment évidente. Voilà, c'était...